Merci. Dans votre dernier livre en date, Sentinelle, paru en février aux éditions Christian Bourgois, Cécile Vachebrot, on lit ceci, page 43. Et je vous propose que nous le lisions ensemble. Vous verrez qu'à chaque fois, ce sont des dialogues très courts. Mais qu'est-ce qui nous unit ?
Nous habitons le même pays, la même ville.
Et nous parlons la même langue.
Cela suffit-il pour faire une communauté ?
Vous voulez reprendre ce débat éculé sur l'identité ?
À l'heure de la mondialisation ?
Non, j'ai dit communauté.
Communauté de destin. Ceux qui se trouvent sur le même territoire au même moment ont quelque chose à partager.
Comme nous, ici. Ce pourrait être le programme, l'économie générale de notre rencontre en cette fin de journée au Crous-Mabillon. Je vous présente rapidement, vous êtes agrégé de lettres, Cécile Vachebrot, mais vous vous êtes empressé de ne pas enseigner pour vous confronter à l'écriture et à la traduction. Cette confrontation, dans une forme de solitude, parfois de réclusion, ne vous retranche pas pour autant du public à condition qu'il soit une sorte de récepteur culturel et pas un simple consommateur. Qu'est-ce qui nous unit ? Qu'est-ce qui nous unit ? Voilà la question qui semble vous poursuivre avec toutes ces variations. Autre court extrait de Sentinelle, c'est page 146. Rien ne nous relie.
Ce qu'on ne voit pas n'existe pas.
On oublie.
Les contours s'estompent, s'effacent.
Le monde recule dans les ténèbres.
Le néant.
L'autre monde apparaît.
Miroir.
Reflet.
Vision.
La rencontre.
L'inconnu.
Alors, nous venons maintenant, je pense, d'en prendre conscience. Vous lire, Cécile Vachebrot, c'est renoncer au ronron habituel. Pas d'instance narrative, des dialogues qui s'emboîtent en une étrange polyphonie de voix esselées qui forment un ballet de sons et de sens. Et cette chorégraphie de paroles a pour prétexte, dans Sentinelle, le vernissage d'une exposition d'un vidéaste au Centre Pompidou. Le public, l'artiste, un agent de sécurité devant son écran de contrôle, tout le monde patiente, jusqu'à la panne, l'incident qui fait tout chavirer avant que tout ne reprenne son cours en notre mode monde, plutôt en notre monde d'entre-deux, d'indéfini. Je cite à nouveau, deux mondes.
Le passé, le présent.
Et dans lequel vit-on ?
Un mélange.
Une fusion mortelle.
Ce qui nous guide ?
La mémoire.
Les grands mots.
La mémoire, les mots, l'attente, ce pourrait être un jeu, mais c'est une forme de métaphysique jadis résumé par Louis Jouvet et Arletty dans Hôtel du Nord. Vous savez, c'est le fameux bout de dialogue d'Henri Janson. « Ma vie n'est pas une existence. Ben, si tu crois que mon existence est une vie. » Ce qui donne, dans Sentinelle, ceci, page 79, qui nous parle ici, ce soir. Vivre dans la précarité.
Rien n'est sûr.
Nous allons d'étape en étape.
De stage en stage.
Mais sans continuité.
Toujours recommencer.
Être jeune aujourd'hui.
C'est continuer ce qu'ont fait nos parents.
Alors nous sommes tous dans votre œuvre, et particulièrement dans celle-ci. Nous sommes tous, semble-t-il, en ce monde, pétrifiés les uns face aux autres, entre sphère publique et sphère privée, dans l'attente de je ne sais quel charme libérateur. Si je sais lequel, nous savons lequel en lisant, c'est le charme de l'art qui ne nous tombe pas dessus aussi simplement que le baiser du prince charmant à la fin de l'histoire. Il s'agit d'une réception agissante. L'art est, croit-on pouvoir comprendre, un processus dont veulent rendre compte vos mots hachés, hantés, hallucinés. Vos livres racontent des conquêtes immobiles à grands pas. Et cela débouche sur ma première question. Qu'est-ce que ces récits fragmentés tentent d'unifier, Cécile Vachebrod ? Qu'est-ce que nous cherchons tous à saisir, d'après vous ?
Le silence, peut-être. C'est vrai que je ressens, alors intimement même, un désir d'unité, de continuité, d'union, qui se traduit peut-être dans la littérature par d'abord la nécessité de d'écrire des romans, c'est-à-dire, et par romans, je veux dire quelque chose de continu, justement, et qui ne soit pas fragmentaire. Et en plus, dans ce livre Sentinelle, donc qui fait partie d'un cycle qui s'appelle Haute Mer, et dont les deux précédents ont paru et sont réédités dans la collection de poche titres, chez Bourgois également, il y avait à la base de cette idée de cycle toujours ce désir d'unité. La constatation que chaque roman que j'écrivais s'ajoutait, enfin, formait une liste de titres, et c'était comme si les titres, au lieu de s'ajouter, se détruisaient mutuellement, comme dans Mission Impossible, enfin ce genre de choses où tout à coup ça n'existe plus.
Mais ce cycle, je me permets de vous couper, parce que c'est drôle de voir comment les observateurs, les commentateurs, au début ont dit, quand les deux premiers, c'est un diptyque. Mm. Et puis après Sentinelle, c'est un triptyque. Et puis voilà que dans certains entretiens, vous annoncez que vous êtes en train d'écrire un quatrième. Enfin, donc ça va devenir une sorte de polyptyque, semble-t-il. Quelle forme entendez-vous donner, sera-t-elle close en tout cas, à ces livres sur lesquels nous allons revenir et qui forment un ensemble encore difficilement définissable ?
C'est un ensemble diffus parce qu'effectivement il n'y a pas de personnages qui reviennent, il n'y a pas d'histoire qui se continue, mais il y a des liens thématiques. Il y en a un qui est évident, c'est la question de l'art, de la création, de la réception. Et il y a des choses souterraines aussi qui apparaissent plus au premier plan dans certains romans, plus souterrainement dans d'autres. Et voilà, donc des liens moins évidents. J'ai jamais donné de chiffres au départ, donc j'ai jamais dit qu'il y en aurait deux ou trois ou quatre. Moi, j'aimerais que ce soit un nombre, un chiffre impair, et que le dernier soit autour de la littérature. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai comme idée. Et je ne sais pas, donc il y en aura peut-être cinq.
Ce sont des thèmes qui permettent ces croisements. Vous avez, je crois, savoir imaginer un moment que des personnages récurrents puissent eux-mêmes servir de lien, et vous y avez renoncé. Vous pourriez nous expliquer pourquoi ?
Oui, j'avais d'abord pensé, parce que mes personnages n'en sont pas vraiment, et donc je pense que c'était difficile de les faire revenir. Enfin, c'était une solution ou trop premier degré, je ne sais pas comment dire, quelque chose à la fois difficile par rapport à la notion de personnage avec laquelle j'ai un problème, et une solution même peut-être de facilité. Mais moi, je préfère parler de figure, de conscience éventuellement, donc, mais pas de personne physique, enfin de personnage au sens de presque, enfin, qu'on puisse confondre avec des personnes physiques. Et puis Bon, le procédé a été utilisé dans La Comédie humaine par Balzac, et là, ça se justifiait complètement, et je ne me voyais pas refaire quelque chose du même ordre, pas du tout même.
Mais revenons sur cet ardent sanglot, comme disait Baudelaire, qui roule non pas d'âge en âge, mais de livre en livre, et qui devrait se terminer avec la littérature. On a la musique, on a la sculpture, on a la vidéo, et on a l'impression que vous considérez l'art à la fois comme un maître étalon, comme celui qui est au musée de Sèvres, enfin, la mesure de toute chose en définitive, mais en même temps un maître étalon crypté. C'est compliqué à expliquer, mais d'abord, vous n'êtes pas là. Et vous n'écrivez pas pour être un poteau indicateur, comme disait Gide, vous êtes sans doute l'écrivain le moins poteau indicateur de la littérature contemporaine. Mais là, on a l'impression que, par cette espèce de polyphonie, par ces voix qu'il est parfois difficile d'identifier, au point que, comme vous le disiez, il n'y a pas de personnage tel qu'on puisse les faire revenir d'une façon épisodique et récurrente, à travers un système sur lequel nous allons revenir au cours de cette rencontre, vous voulez que les choses apparaissent d'une façon diffuse, subreptice et en définitive cachée, d'où mon terme de crypté. Et donc, on est dans cette contradiction apparente, une mesure cryptée.
Moi, plus que de mesures, je parlerai peut-être de métaphores ou de symboles. C'est-à-dire, j'ai pris l'art comme quelque chose, il me semble que c'est quelque chose qui existe beaucoup, qui a toujours existé, mais qui existe particulièrement beaucoup aujourd'hui. La notion d'artiste et d'art, donc même, c'est dilué d'une certaine façon, et il y a une sorte de revendication au fait que tout le monde est artiste, et l'art devient une aspiration très, très nombreuse finalement. Et ça m'a paru intéressant parce que mon souci, si je peux employer ce terme, c'est d'essayer de trouver comment, dans un roman, parler de son époque. Comme, alors pour le coup, Balzac parlait de son époque, il utilisait des objets significatifs de l'époque. Par exemple, je ne sais pas, il y a tout un début dans la vie, ça se passe dans une voiture, presque entièrement dans cette voiture, et il y a tout un développement sur les messageries, sur le fait que les messageries vont bientôt disparaître, qu'elles vont être remplacées par une autre forme de transport. Et donc ça nous donne une vision de choses précises du 19e siècle. Et pour quelqu'un qui écrit aujourd'hui, la question est la même, c'est-à-dire comment parler de notre époque, mais sans que ce soit de la paraphrase de l'époque. Et donc il faut trouver des biais, il faut trouver des détours, il faut trouver des instruments. Et l'art, pour ces raisons que je disais au début, et je ne sais pas, ça m'a paru être un prisme intéressant par lequel on pouvait regarder notre époque.
Prisme à l'instant, métaphore tout à l'heure. Métaphore, figure de style, c'est à la fois partout, nulle part, à analyser, à identifier. Et votre livre Sentinelle commence par une allusion à cela, je trouve. C'est dans les premières pages, page 14, cette réplique, puisque ce sont uniquement, encore une fois, des répliques. Dès qu'on analyse, on transforme n'importe quelle absurdité en œuvre réfléchie. Et là, Il y a à la fois une critique de l'époque, une critique possible de l'art en question. Ça mérite. Vous avez suivi les études pour, hein, même si vous vous êtes carapaté. Ça mérite explication de texte à la française.
Oui, mais justement, moi j'aimais beaucoup l'explication de texte comme exercice de style, pour le coup. Et c'est vrai que quand on... Alors c'est même pas la valeur du texte qui est en cause, mais un texte à étudier qu'on trouve soit mauvais, soit ennuyeux, à force de l'étudier, on finit toujours par y trouver un intérêt quand on creuse. Et après, enfin, cet intérêt, il n'a plus rien à voir avec le texte lui-même, il a à voir avec la démarche de chercher, d'approfondir, de creuser, d'utiliser un certain nombre d'instruments qu'on a à notre disposition. Et je suis en train de penser, tout en vous parlant, à quelque chose qui est différent, mais qui revient au même et qui est beaucoup plus grave. C'est dans un entretien à la télévision allemande de Hannah Arendt qui explique qu'en 1933, quand les gens ont commencé à se détourner d'elle parce que, enfin, dès les débuts du nazisme, parce qu'elle était juive, parce que les lois petit à petit étaient de plus en plus restrictives, et elle disait que le pire pour elle, c'était pas les gens c'était les intellectuels. C'était les intellectuels parce que, disait-elle, ils sont capables de tout justifier, même la pire des théories. Et c'est vrai que c'est un jeu rhétorique. Et donc là, c'est pas la même chose, mais c'est un petit peu dans cette direction. C'est vrai qu'avec l'intellect, avec l'analyse, on peut tout dire et tout justifier. Après ça, il y a l'idée aussi qui est évoquée, je pense, dans d'autres endroits du roman, que, et ça aussi je l'ai éprouvé des deux côtés, je peux dire, c'est que entre l'analyse, l'écriture d'un texte et l'analyse du texte, il y a un abîme. Mais ça ne veut pas dire que l'un vaut mieux que l'autre. C'est deux démarches qui sont totalement différentes et qui ont chacune leur intérêt. Mais bon, bien sûr, il y a des points de rencontre. C'est un peu radical de dire que ça n'a rien à voir. Mais en même temps, c'est deux ordres différents de création.
Mais puisque nous sommes entre nous, on peut se livrer à quelques confidences. La réception de votre littérature, puisque nous y reviendrons, et vous l'avez déjà dit, tout aussi entre émission de l'œuvre et réception d'Issel, comme disent les cuistres. Est-ce qu'il vous est arrivé, en lisant des critiques de vos livres, un, de ne pas reconnaître les livres, écrits par vous pourtant, et deux, de vous demander, mais est-ce qu'il n'est pas en train, ou est-ce qu'elle n'est pas en train de me parler de ses peines de cœur ou de sa grippe intestinale? Enfin, est-ce que vous n'avez pas l'impression, de temps en temps, lorsque vous êtes l'objet d'une réception censée être argumentée, que les gens passent totalement à côté de vous, ou au contraire, ça peut arriver, sait-on jamais, vous révèle à vous-même?
Oui, les deux peuvent arriver, bien sûr.
Sans citer de nom, vous avez des souvenirs, des exemples intéressants comme ça de...
J'avais un souvenir qui vient de s'enfuir, mais je vais commencer par autre chose. J'ai des souvenirs, par exemple, d'un roman que j'ai écrit il y a longtemps qui s'appelle Nation par Barbès. Et mon idée, déjà avec le titre et puis en plus dans le roman, c'était je voulais parler de la question de l'immigration clandestine. Et donc, c'était l'histoire d'une jeune femme bulgare qui rêve de venir à Paris. Et c'est l'écart entre son rêve et la réalité qu'elle trouve. Et bon, l'histoire se termine mal. Il y a tout un, comme le titre l'indique, peut-être tout un rôle important du métro, de l'histoire du métro et puis du métro actuel. Et il y a beaucoup de scènes qui se passent dans le métro. Et il y a une histoire, parce qu'à l'époque, j'avais des personnages plus personnages que maintenant. Et donc, il y a une histoire d'amour aussi, de rencontre dans le métro. Et ce livre, quelquefois, a été perçu, quand il a été perçu ou reçu, comme, je me souviens de certains titres, une histoire d'amour dans le métro. Mais toute la dimension politique, complètement passée à l'as, pour parler de façon un peu familière. Et moi, je voulais que ça figure sur la quatrième de couverture, qui est une allusion à ça. Et l'éditrice, à l'époque, m'avait dit, mais non, parce que pour moi, le titre était transparent. Nation par Barbès, il y avait un jeu de mots. Bon, c'était la ligne 2 du métro parce que ça se passait là, mais il y avait la question de la nation et Barbès, c'est un quartier d'immigration. Et donc elle m'a dit, mais c'est assez clair, tout le monde va comprendre, c'est pas la peine d'insister. Et en fait, bon, on n'a pas vraiment tout compris. Donc voilà, ça, oui, ça arrive.
Si nous étions encore dans les années même, pas seulement 50, 70, et que vous aviez un journaliste des lettres françaises devant vous, il s'empresserait d'ajouter, comme pour rassurer le public, qu'il y a une dimension sociale dans laquelle s'ancrent ces ouvrages qui, par ailleurs, traitent, on l'a vu, d'une façon diffuse, de l'art et de sa réception. Continuellement, sans aller chercher les SDF, mais il peut y en avoir, la précarité est là, comme quelque chose qui guette. Et vous avez ce petit morceau de dialogue que j'isole, et qui, à mon avis, mérite commentaire, ce qui nous guette, le sort, dites plutôt le destin.
Mais c'est vrai que pour parler de précarité, on a vraiment le sentiment que c'est une caractéristique de l'époque et que bon, le sort, c'est quelque chose de je sais pas, j'allais dire d'anecdotique presque, qui pourrait être le destin, c'est beaucoup moins éphémère. C'est quelque chose qui a un sens, qui se dirige vers quelque chose qui a un sens tragique. Le sort, c'est presque une question de hasard. Et là, on a... Enfin, je ne sais pas, je pense que je ne suis pas la seule à être frappée par les métamorphoses de la société dans laquelle on vit, de l'époque, du fait qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent dans la rue, et toujours dans cet esprit de chercher à rendre compte d'une époque, mais sans écrire de romans réalistes, parce que ça, comment dire ça, ça ne m'intéresse pas d'écrire ce genre de littérature, mais comment faire quand même pour que le monde entre dans le roman, dans le livre. Et voilà, donc ça c'est effectivement quelque chose qui court à travers les trois romans du cycle. Dans Conversation avec le maître, il y a une jeune femme qui apparaît un jour et qui est... Enfin, pas précaire dans le sens, enfin, elle n'est pas SDF, mais elle vit dans un endroit très, très précaire et elle vit de ménage. Elle est elle aussi immigrée clandestine, dans l'île au musée qui tourne plus autour de la sculpture et qui se passe dans deux lieux très précis et clos, l'île au musée à Berlin et le jardin des Tuileries à Paris. Il y a, alors là, c'est juste une allusion, peut-être qu'il y a trois phrases seulement dans le roman, mais pour moi, ça forme une continuité avec cette jeune femme des conversations avec le maître et avec ces bribes de conversation qui tournent autour de cette question dans la soirée de vernissage à Beaubourg. Il y a une allusion aux tantes qui ont, alors je ne sais plus en quelle année c'était, mais qui étaient apparues comme ça le long de la Seine.
Je pense que c'était 2008, notamment le canal de le canal Saint-Martin.
Oui, c'est ça. Il y avait le canal, ça avait commencé au canal Saint-Martin.
Les enfants de Don Quichotte.
Voilà, c'est ça, les enfants de Don Quichotte. Et ça avait s'aimé un petit peu. Et je me souviens qu'il y avait eu des protestations parce que c'était tout près de l'Assemblée nationale, qu'il y en avait au bord de la Seine. Et comme ça se passe dans le jardin des Tuileries et qu'il y a un côté du jardin qui est près de la Seine, donc à un moment, très fugitivement, elles apparaissent. Et j'ai été marqué aussi dans, alors ça c'est en amont de la réalité qu'on peut vivre à Paris ou ailleurs, par une phrase d'Adorno, je crois que c'est dans les Minima Moralia, où il dit que après il met en relation, enfin je crois qu'il dit même littéralement qu'après cette époque de camps où le monde s'est couvert de camps de concentration ou d'extermination, que plus jamais l'habitat ne pourra être le même et que l'habitat ne pourra plus être qu'éphémère en quelque sorte. Qu'on ne pourra plus être dans des maisons, des appartements, des choses solides et fixes. Et effectivement, il y a de plus en plus de camps de réfugiés, de tentes, de déplacements comme ça.
Mais là, je me tourne vers le public pour, à mon tour, tenter de pratiquer une sorte de vivisection sur laquelle vous aurez votre mot à dire, bien sûr, mais il me semble que la littérature de Cécile Weisbrot, une des problématiques, c'est les relations, la dialectique entre ce qui circule et ce qui coince. Et elle l'a dit à propos de destin. Le destin, c'est ce qui se dirige, alors que le sort semblait, même si vous ne l'avez pas tout à fait dit, lié à davantage de fixité. Ce qui est très intéressant parce qu'on pense à ce vieux mot du Moyen-Âge et de l'époque féodale qui était manant, vous savez, du verbe manere, le manant c'est celui qui reste, attaché à sa glèbe. Et la précarité est aussi liée à cela, mais l'art circule de son côté. Et on a l'impression qu'il y a cette espèce de contradiction apparente entre, non pas la jet set, mais entre une sorte de mondialisation et une précarité qui fait de vous à nouveau des manants contemporains qui peuvent se retrouver dans la glèbe d'un bidonville. Mais cette mondialisation est aussi, me semble-t-il, au cœur de vos ouvrages, et j'en donne juste une lecture. Toujours tiré de Sentinelle, un dialogue, une phrase, un locuteur qui dit « Nous sommes transportés à l'autre bout du monde, dans des pays où nous n'irons jamais, où cependant quelque chose de nous existe, lorsque quelqu'un montre ses photos à un ami. » Alors là, je trouve ça assez extraordinaire parce qu'on a à la fois la précarité, le social, et puis en même temps, vous savez, quand on cueille une fleur, ça dérange une étoile. Enfin, c'est pas seulement la mondialisation tel qu'on l'entend. Il y a quelque chose de, il faudrait en parler maintenant, de puissamment poétique dans cette œuvre où les dialogues en deviennent des fragments, des bribes, des lambeaux de poèmes. Mais un poème fragmenté, on appelle ça par exemple un haïku. Cette volonté de faire baigner ces romans avec leurs problématiques dans une expérience, j'ose le mot poétique, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de votre projet.
Oui, c'est des mots qui me touchent et qui me plaisent, ce que vous employez. C'est ce que j'essaye de faire, en tout cas, oui. C'est toujours dans cette idée de ne pas écrire un roman réaliste et donc de ne pas avoir non plus une écriture réaliste. Mais tout est lié, c'est-à-dire qu'en cherchant... Il y a plusieurs choses dans ce que vous avez dit. Donc il y a la mondialisation, il y a la forme poétique, mais peut-être on peut trouver le lien avec, moi je dirais plus des flux, les flux migratoires. Donc il y a le flux de l'art, il y a une circulation comme ça, comme de courants. Bon, les courants, ils existent dans la mer, dans l'espace, dans l'air, et nous, on est pris entre différentes sortes de courants physiques, mais aussi le flux de conscience. Enfin, il y a tous les courants extérieurs, les courants intérieurs, et donc on est en mouvement, même si on aimerait, ce serait plus... apparemment, en tout cas, plus pratique, plus confortable d'être dans la stabilité, mais la vie n'est pas comme ça. On est en perpétuelle évolution et mouvement. Et donc, par rapport à ça, la précarité, c'est vrai qu'il y a une fixité parce qu'on est coincé dans une situation sociale, mais en même temps, c'est aussi... des gens qui circulent, qui essayent de venir ici pour trouver une vie meilleure, pour fuir des pays dans lesquels la situation est bien pire que la nôtre et qui viennent. Donc on est sans arrêt assaillis de ces informations, d'un bateau de clandestins qui coule, de quelqu'un qui a fait le voyage dans la soute d'un avion. Et on est entouré de ces informations, et pas seulement d'informations. Il y a les gens concrètement dans la rue qu'on voit qui sont installés un moment dans une rue, sur une avenue, et puis qui, pendant 3 mois, disparaissent parce que sans doute ils ont été expulsés, puis qui reviennent. Et donc c'est un flux qui existe autant que le flux de la jet set ou la circulation des œuvres d'art ou la circulation intellectuelle. On est pris dans tous ces mouvements de déplacement, de migration. On est dans un bouleversement de temporalité. Tout le monde a conscience qu'on a quitté un monde avec des repères solides et on est entré depuis assez longtemps maintenant, enfin pas mal d'années, dans un monde dans lequel on est dans le brouillard total. Et donc pour essayer d'appréhender un tout petit peu, de saisir un tout petit peu quelque chose de tout ça, on ne peut pas écrire avec des phrases droites qui se coupent à angle droit et des mots coupants. Et donc la recherche d'une écriture musicale, d'une écriture poétique, elle va de pair avec ça, avec ce flou, avec cette incertitude.
En vous écoutant, vous parliez tout à l'heure de métaphores. Je me disais, mais ça doit vous passionner ce qu'on appelle la circulation thermohaline des océans. Vous savez, là, c'est presque devenu la métaphore de votre œuvre, semble-t-il. Vous savez, les courants chauds qui risquent de disparaître, curieusement, ça peut être une des conséquences imprévisibles du réchauffement, c'est que le Gulf Stream disparaîtrait et qu'à ce moment-là, on aurait une période de glaciation, puisque Bordeaux est à peu près à la même latitude que Montréal et serait pris dans les glaces s'il n'y avait pas le Gulf Stream. Et tout ça, c'est dû à cette circulation de choses qui apparaissent, qui disparaissent, comme ces précaires dont vous parliez. Vous vous intéressez à ces choses-là ou...
Oui, et puis il y a tout ce qui concerne, la dérive des continents. Oui, je trouve ça passionnant, ou la Lune aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et oui, tout ce qui concerne le réchauffement climatique, bien sûr, ça fait un moment qu'on nous donne des signaux comme ça inquiétants. Et je voulais dire quelque chose que j'ai perdu. Oui, enfin, c'est une des conséquences du réchauffement. Nous dit-on que peut-être bientôt on aura accès à des zones, enfin, au pôle Nord. On ne parle pas encore du pôle Sud, mais peut-être ça viendra, et qui seront accessibles. Et moi, j'ai lu beaucoup de récits, d'expéditions, de la recherche, du passage du Nord-Est, du Nord-Ouest. Ça me fascine totalement, ces récits de la conquête des pôles, ou Shackleton aussi, l'Odyssée de l'Endurance. Enfin, y a un tas de choses, parce que, je ne sais pas, c'est une aventure aussi, c'est l'impression qu'on vit dans un monde connu et limité, et en fait non, parce que encore une fois tout est en perpétuel mouvement, donc il y a encore un tas d'espace, même sans aller jusqu'à la conquête de l'espace, mais d'espace sur Terre à conquérir, ou à découvrir plutôt, parce que conquérir ça fait un peu militaire.
Mais quand on vous lit, on retrouve ce que vous venez de dire, puisque nous sommes entre, ce n'est pas la fonte des glaces, mais entre ce que vous appelez la dilution des mots, page 75, la dilution des mots. Rien ne veut plus rien dire, aucune référence commune. Et puis, cette question du réel. Où est le réel ? Qu'est-ce que le réel ? Quand je sors du travail, je flotte dans un monde sans couleur, sans relief. Il me faut quelques minutes pour réaccommoder ma vision. C'est comme si des silhouettes se détachaient d'un mur ou sortaient de l'écran pour acquérir une consistance, un volume. Comme si d'un coup, je passais du cinéma muet en noir et blanc au cinéma parlant et en couleur. Certains jours, je ne sais plus si la réalité est du côté des écrans ou du côté du monde. Et là, c'est en vous écoutant tout à l'heure parler de la circulation des océans, il y a aussi un aspect que je n'avais pas vu avant de vous entendre, qui est presque un aspect cartographique, sans aller faire de vous une agrégée de géographie comme Julien Gracq. Néanmoins, le territoire physique ou mental est quelque chose qui doit être redéfini à chaque pas presque, non ?
Oui, mais c'est bon, là, dans le passage que vous avez lu, c'est très particulier aussi, parce que peut-être il faut expliquer un peu plus, c'est donc une soirée de vernissage à Beaubourg, et on se promène dans cette soirée, donc c'est en temps limité, ça se passe en 3 heures, et on se promène dans l'exposition d'un vidéaste, et avec des bribes de conversation. Et de temps en temps, il y a comme des espèces de plongées dans l'intériorité de figures qui reviennent et qu'on peut identifier petit à petit, je pense, sans trop de difficultés. Donc il y a l'artiste, il y a un critique, et là, celui dont vous venez de lire un passage, c'est le gardien, c'est-à-dire qu'il y a tout le monde est dans la soirée, mais il y a un gardien qui suit le déroulement de la soirée sur des écrans vidéo, parce que c'était un moyen de mettre en balance l'art vidéo et la vidéosurveillance. Et donc ce qu'il dit est très concret, en fait, c'est que lui, il voit ses écrans, et quand il sort, l'écran a disparu, donc il voit le monde tel qu'il est ou tel qu'il est censé être, mais à force d'avoir passé des heures sur des écrans, avoir vu ces silhouettes en noir et blanc sur ces écrans, qui sont peut-être un peu anciens, parce que je suppose qu'il y a des écrans couleurs, il passe d'un univers à un autre. Mais cela dit, c'est vrai que la réalité n'est pas, enfin pour moi en tout cas, n'est pas une évidence. Qu'est-ce qu'on appelle réalité? Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui n'est pas réel? Est-ce que ce qu'on voit est plus réel que ce qu'on pense? Enfin, il y a toutes ces questions qui flottent en fait un peu autour de nous et dont certains passages sont l'écho sans doute, oui.
Oui, parce que ce flottement dont vous parlez est à la fois spatial et temporel. Et là, nous venons de parler de lieux qui restent, non pas à conquérir, mais à découvrir. Mais parfois, vous faites un glissement et il y a des moments, des instants qui restent à répertorier, si j'ose dire. Et je voudrais lire, alors, à nouveau, je tire tout ça de son contexte pour en faire quelque chose de métaphorique, et l'auteur se cabre un peu en disant, mais attention, tout ça s'inscrit dans un livre. Mais je crois que ceux qui n'ont pas lu le livre peuvent comprendre votre démarche. Je crois qu'on est même au cœur de votre projet avec cet extrait, un peu plus long que les autres, qui fait une demi-page et que je vous lis. Quand je pense aux moments non répertoriés, ni notés par écrit, ni enregistrés par l'image, quand je pense à ce que nous vivons et qui passe sans laisser de traces, ou des traces inconscientes qui nous façonnent à notre insu, je me sens comme flotter à la surface d'un monde incompréhensible, ballotté par les vents, sans direction. Rien n'existe si nous ne retenons rien, et pourtant notre vie est faite de ces étendues d'oubli, de particules infimes, voués à la disparition, qui continuent d'agir en secret sur nos comportements et nos pensées. Événements éphémères qu'aucune image ne retiendra. Le moindre mot que j'ai écrit me reste en mémoire. Je cherche la juste mesure de la mémoire et de l'oubli. J'aimerais vivre un recommencement du monde où tout serait à recréer. Là, on a l'impression d'avoir votre feuille de route.
Oui, mais et plusieurs étapes en plus, parce que il y a plusieurs choses, c'est-à-dire il y a le fait que moi j'oublie beaucoup de choses, et donc j'ai le sentiment de... Et donc les souvenirs que j'ai, c'est comme des espèces d'îlots comme ça qui surnagent dans un océan d'oubli. Et en même temps, tous ces oublis, quelquefois il y a des choses, des événements qui peuvent m'être rappelés par quelqu'un d'autre et dont j'ai aucun souvenir. Quelquefois ça peut ramener le souvenir. Ou quelquefois même de voir quelqu'un qu'on a rencontré il y a des années mais qu'on ne reconnaît pas. Et donc ces moments-là sont la preuve qu'il y a autre chose qui a existé que ce dont on se souvient. Et ces autres choses, elles sont quand même là. Et elles participent à notre... Elles nous constituent aussi. Et dans l'écriture, c'est pareil. C'est-à-dire, j'ai le sentiment que... Il y a une mémoire et un oubli, mais au-delà de l'oubli, une mémoire de l'écriture, que c'est comme dans la vie, c'est-à-dire que les choses qu'on a écrites, ou les textes qu'on a écrits, qu'on a jetés, qu'on a mis de côté parce qu'ils n'étaient pas satisfaisants, comme les moments qu'on a vécus, qu'on oublie parce qu'il n'y avait rien d'extraordinaire, ou au contraire, parce que c'était désagréable, ils restent quelque part en nous. Et ils sont le sédiment sur lequel va se construire un autre texte, une autre écriture, qui aura gardé la mémoire de ces choses qui, apparemment, n'ont servi à rien, étaient mauvaises, n'étaient pas retenues. Et il peut y avoir des traces, alors qu'ils sont conscientes, ou des traces totalement inconscientes. Il y avait autre chose dans... Vous voyez, quand je vous dis que j'oublie, j'ai oublié la dernière partie de la feuille de route.
Je pense que là, c'est cette empreinte, cette mémoire, comme presque on pouvait parler à un moment de la mémoire de l'eau,
oui.
C'est quelque chose d'essentiel. Et après tout, tenons-nous-en là pour cette feuille de route. Mais quelque chose se pose alors, puisque nous sommes dans des champs de force avec des lignes contraires, quelque chose se pose, et que je vais vous présenter brutalement, il semble néanmoins que vous n'ayez pas totalement renoncé à un aspect démiurgique derrière l'éclatement. Et là, on est au cœur de ce que vous tenez, parce que vous nous offrez des fragments, parfois indistincts, difficiles à repérer, des polyphonies de voix incertaines, volontairement flottantes, et en même temps, vous êtes auteur et vous ne renoncez à rien. Il n'y a pas d'instance narrative, parce que Balzac, c'est fini, vous l'avez compris, bravo, certains se cramponnent. Mais l'auteur du livre, c'est pas do it yourself, c'est pas une mangeoire où chacun viendra picorer. On sent que, et on reviendra sur la musicalité, etc., mais on sent qu'il y a un créateur, et je osais dire, une démiurge.
Mais en tout cas, je crois au sens, d'abord. Et donc, je ne sais pas pourquoi, c'est la première réponse qui me vient à l'esprit en écoutant ce que vous dites, mais peut-être parce que c'est inséparable. La notion de sens et la notion d'auteur. Et donc, croyant au sens, c'est ce qu'on disait au début, je crois à une essence, au sens de direction aussi. Et je pense que ça confère automatiquement une unité et par conséquent une structure, une composition et donc, oui, un auteur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire semblant quand on écrit de ne pas écrire et donc de ne pas être l'auteur du livre qu'on écrit. Et comme vous dites, on pourrait dire que c'est des morceaux de puzzle, mais à la fin, du moins j'espère, l'image est composée, elle est rassemblée. C'est pas la boîte qui est livrée avec les morceaux épars, mais ces morceaux, mon travail, enfin la façon dont je le comprends, c'est d'arriver à, comment dire, à les créer ou à les rassembler dans le sens. Pas dans le sens de les mettre ensemble pour constituer une image, mais d'abord à les identifier et ensuite à les rassembler pour que l'image se construise.
Mais il y a aussi un aspect manifeste. Je crois que vous aviez écrit, il me semble que c'était chez Zulma, pour la littérature. Vous avez une vision de la littérature. Vous tenez en piètre estime certains héritiers fatigués de l'autofiction. L'espèce d'instance narrative procédant d'un moi éthique, sans H, maigrelet, fatigué, c'est pas votre affaire. Et on a presque l'impression qu'il y a une forme d'orgueil littéraire au meilleur sens du terme, à savoir que, comme l'océan s'est retiré des terres, comme Dieu a déserté sa création, le véritable écrivain n'a pas à nous encombrer de son petit ou grand moi. Et je trouve que vos livres s'inscrivent au point que je me demande si plus tard, quand vous vous êtes auto-éditeré en Pléiade, vous n'irez pas mettre au rebut certains livres où vous n'avez pas eu encore cette radicalité d'aujourd'hui, mais nous n'en sommes pas encore là.
Oui, mais même sans Pléiade.
En tout cas, j'ai l'impression que presque de là où vous êtes arrivé, et là sans orgueil déplacé, vous tenez à distance vos premiers livres qui ne tiennent pas compte de cette exigence sur laquelle j'aimerais que vous reveniez après une question un peu trop longue, pardon.
Oui, on apprend en écrivant et donc on évolue et forcément les premiers écrits, enfin pas tous, mais c'est vrai qu'il y a certains romans que j'ai écrits que je trouve trop académiques en fait, et où je ne me posais pas cette question de... ou en tout cas j'y répondais mal, je croyais y répondre... faussement de la forme. Mais quand je dis la forme, c'est pas la forme pour la forme. C'est vrai que je crois dans la littérature. Je crois que ça existe. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et à faire et qu'on n'est pas au bout du... Et quand je dis littérature, je pense plus particulièrement au roman parce que c'est mon domaine d'expression. Et qu'on n'est pas au bout du roman. Je me souviens de quelqu'un il y a longtemps, c'était à la fin des années 70, qui me disait j'arrive pas à écrire de roman, et qui disait mais finalement j'ai compris, c'est pas de ma faute, c'est la faute du roman. C'est un genre qui est périmé, qui n'existe plus. Et moi je pense que c'est difficile parce qu'effectivement c'est dans cet essai auquel vous faisiez allusion, je reviens un petit peu sur l'histoire de cette difficulté donc qui a été attaquée à plusieurs reprises et curieusement chaque fois après une guerre mondiale. Donc il y a eu d'abord le surréalisme, le manifeste du surréalisme, et André Breton qui cite un passage de Dostoïevski qui décrit la chambre, je pense, de Raskolnikov dans Crime et Châtiment. Et Breton dit « je n'entre pas dans la chambre ». Pour moi, la réalité, c'est pas ça, c'est la surréalité, c'est l'inconscient, c'est le rêve. Et c'est vrai qu'il y a eu toute une partie... qui n'a pas été prise en compte par le roman ou par ce roman, et qui a des territoires immenses encore à découvrir, mais qu'on peut découvrir dans le roman, mais à condition de ne pas figer la forme du roman, de ne pas la reprendre telle qu'elle du 19e siècle, et à condition aussi de ne pas la reprendre telle qu'elle d'une forme qui, en son temps, a renouvelé le roman qu'on a appelé le nouveau roman, mais qui n'est plus non plus, qui répondait à des questions de l'époque des années 50-60, mais qui n'est plus non plus la réponse qu'on peut avoir maintenant. Et enfin, j'étais contente de lire dans je ne sais plus quel texte de Nathalie Sarraud dans la Pléiade, disant que dans quelques années, enfin, on ne pourrait plus écrire comme ça, c'est-à-dire le travail littéraire, c'est un travail en perpétuel devenir, perpétuelle évolution, et c'est une quête, une recherche perpétuelle. Quand on voit, par exemple, Marguerite Duras, l'évolution de forme entre les romans, mais bon, elle, tout était bien et à chaque étape, mais entre le barrage contre le Pacifique et le ravissement de l'Olvestein, il y a une différence énorme. Et quand on lit après La douleur ou les textes qui composent Outside, c'est encore très, très différent. Et donc c'est en perpétuel devenir, en perpétuelle évolution. Et donc la difficulté aujourd'hui, c'est d'arriver à, et donc c'est mon problème et ce que j'essaye de résoudre à chaque fois, à écrire, ne pas démissionner de l'écriture d'un roman, mais pas le roman du 19e siècle ou du 20e dans la mesure où il a continué celui du 19e siècle, pas le nouveau roman non plus, parce que c'est déjà du passé, il est déjà plus nouveau, ne pas refuser non plus l'apport du nouveau roman, parce qu'on est à un moment de l'histoire de la littérature qui vient après, et voilà, et comment on fait avec tout ça ? Donc c'est vraiment la quadrature du cercle, et sans avoir recours à l'autofiction, sans avoir recours aux fragments, qu'est-ce qu'on fait, comment on écrit ?
Eh bien, la transition est assurée pour la deuxième et dernière partie de notre entretien, c'est comment on fait. Vos livres, notamment les derniers, notamment le tout dernier, Sentinelle, se présentent, on l'a vu, presque comme des pièces de théâtre. On a l'impression que, moi, ça m'a fait penser à Inventaire de Philippe Mignana ou certaines pièces de Michel Vinaver, les toutes dernières, ce montage cut, précisément. Mais il n'y a pas uniquement cela. Nous avons une sorte de mystère sur lequel j'aimerais vous interroger. Pour résumer brutalement, ligne claire, rendu trouble. Vous avez des mots extrêmement simples, mais qui aboutissent à une forme d'incertitude tremblée. Et si les personnages ne sont pas identifiés, on sent leur vague à l'âme, leur doute au cœur, si j'ose dire. Et pourtant, et c'est pour ça qu'on est au cœur de votre fabrique, on en arrive à vous lire à une certaine vérité de l'autre, d'autrui. Comment arriver à appréhender l'autre à partir de lignes de fuite tremblées ?
C'est comme une enquête ou comme une recherche, comme un processus qui fait que on y croit quand même malgré la difficulté, et donc il y a quand même une rencontre possible, il y a quand même un sens possible à la vie, même si on a du mal à le trouver, il y a quand même une confiance en quelque chose, et donc peut-être que ça vient de là. Et les mots, c'est vrai que j'ai beaucoup, enfin, tout en tenant au sens, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui est au moins aussi, enfin oui, pas au moins, mais qui est aussi important, c'est le rythme. Et donc c'est quelque chose... En écrivant, pas en écrivant même, mais après dans le processus de relecture, de retravail qui dure assez longtemps, il y a toujours un moment où je lis à voix haute et où je corrige les phrases à l'oreille, en fait, par rapport au rythme.
Mais tout à l'heure, quand j'ai évoqué le théâtre, je vous ai senti, peut-être que je me suis trompée, mais j'ai senti comme une légère rétraction chez vous, comme si vous n'appréciez pas forcément la comparaison. Vous a-t-on proposé, par exemple, de porter sur scène des extraits de ces livres? Les imaginez-vous avoir une vie sur les planches ou est-ce que vous refusez cette comparaison et un tel croisement?
Non, je refuse pas du tout, mais c'est... Comment dire, c'est un roman constitué de dialogues et je ne sais pas si on l'adaptait au théâtre ou si on faisait une adaptation de passage au théâtre. À mon avis, il y aurait un travail d'adaptation, justement. Je ne sais pas si ça pourrait se transposer tel quel sur la scène. Et en tout cas, moi, je ne l'ai pas... Parce que c'est la tentation, évidemment, quand il y a des dialogues, de dire, en fait, c'est du théâtre, mais c'est pas... Alors, est-ce que le fait que je n'ai pas conçu ça au départ, dans mon esprit, comme étant du théâtre, est-ce que ça suffit à dire que c'est pas du théâtre? Je sais pas, peut-être pas, mais...
Mais pour voler à votre secours, c'est lié, me semble-t-il, à l'imprimé. Il manquerait quelque chose sur les planches. Et je pense en particulier, quand je dis l'imprimé, ce n'est pas seulement l'écrit. C'est-à-dire que sur l'écran, il n'y aurait pas le même rendu. Vous avez, dans cette question de rythme, joué aussi sur une forme de composition typographique, avec des blocs, des mots très, très rares qui confinent au point de suspension. C'est pas Apollinaire, quelqu'un, etc. Mais on sent que dans la composition, vous avez aussi pris en compte ce support en train de disparaître. Il y a des terres qu'on découvre et d'autres qui disparaissent. Le livre.
Mais c'est vrai que, bon, en plus, j'écris d'abord toujours sur papier, à la main, et après je transcris. Mais en l'occurrence. Oui, parce qu'il y a une unité qui est la page. Mais c'est vrai que j'ai fait attention aussi, pas forcément dans le premier jet, mais dans le travail après de correction, de relecture, à l'équilibre entre les passages. C'est physique, c'est visuel en tout cas dans le livre, entre les passages comme ça de bribes de conversation et des phrases très courtes ou quelquefois simplement des mots, et puis des passages plus longs. C'est comme, pour reprendre une métaphore musicale, des différents types de nappes sonores. Avec de temps en temps, je ne sais pas, il y aurait un petit instrument, quelques notes comme ça à la flûte, et puis après on aurait un ensemble de cordes. Et donc il y a un jeu effectivement là-dessus d'équilibre. Alors ce n'est pas les calligrammes, mais c'est des choses, c'est plus en fonction du rythme. Donc pas seulement en prenant la phrase comme unité, mais en prenant l'ensemble du livre comme unité.
Et la musique, il y a une sorte de petite mise en abîme, intervient avec la bande-son d'une œuvre du vidéaste exposé au Centre Pompidou et dont le livre raconte le vernissage. La Poste, ce film, a une bande-son et je crois que c'est un groupe, excusez-moi, je me suis arrêté à Rachmaninoff, mais qui existe, qui s'appelle Archives. Et j'aimerais que vous puissiez nous en dire un mot, parce que même quand on ne connaît pas, et j'en suis la preuve incarnée, ça finit par parler.
C'est comme une bande-son de toutes les vidéos. C'est cet artiste vidéaste, il choisit systématiquement un morceau du groupe Archive, qui effectivement existe, qui est un groupe anglais, qui est de la musique... ce qu'on appelle la musique électro, mais qui se fonde beaucoup sur la musique répétitive. Et donc il y a une sorte de, De répétition lancinante qui est assez envoûtante dans les morceaux les plus réussis, avec des instruments déformés électroniquement. Mais par exemple, pour revenir à une question précédente, quelqu'un m'a dit comme ça un jour dans un entretien, mais ce groupe archive que vous avez inventé, vraiment, on y croit, c'est presque comme si... Il existait vraiment, et voilà, alors c'est extraordinaire, le pouvoir de la fiction, de faire croire qu'un groupe qui existe n'existe pas, mais qu'il est tellement vrai qu'on croirait qu'il existe.
Non, mais on en arrive à cette espèce de miracle de la littérature, puisque votre œuvre part de deux constats qui, normalement, vous obligent à fermer boutique. C'est la porie du dialogue, usé jusqu'à la corde, la narration totalement superfétatoire, et vous partez de cela et vous bâtissez quelque chose de fragile et d'un immense pouvoir évocateur. Enfin bon, c'est pas à vous de vous commenter en ces termes, mais je tiens à le dire, et je pense que ceux parmi nous qui ont lu le livre ne pourrait que renchérir. Là, j'ai envie de vous poser la question la plus simple qui soit. Est-ce que vous avez l'heure? Parce que mon téléphone s'est mon téléphone s'est arrêté, ça me permettait de...
Il est 9h moins 20, entre moins 20 et moins 40.
Très bien.
Oui, c'est vrai. Mais presque, mais à une demi-heure près.
Je crois qu'il y a... On arrête à quelle heure? 21h normalement, hein? Non, mais ce livre peut poser et pose la question, alors les esprits un peu prosaïques et modernes diraient du succès, mais je ne trouve pas que succès est un mauvais mot. J'aime beaucoup le mot reconnaissance, parce que reconnaissance, j'imagine, peut-être que vous aimez Schumann, vous savez, il me semble qu'il y a un morceau comme ça dans le Carnaval des Masques qui s'appelle... reconnaissance. Et reconnaissance, c'est à la fois presque se flairer et se reconnaître, et puis ça peut être la reconnaissance sociale qui est tout de même au cœur de ce vernissage.
Oui, puis qui est au cœur du cycle aussi, des autres, c'est-à-dire cette question de la réception, de la reconnaissance qui se pose, je pense, à tout le monde. Et une des choses qui m'a guidée dans cette envie de faire ce cycle de romans autour de ces questions, de l'art, de la réception, c'était aussi une insatisfaction que j'éprouvais par rapport à la réception de mon travail aussi, pour être tout à fait honnête. Et donc, je me suis dit, au lieu de me lamenter ou de m'indigner, c'est intéressant d'explorer ça et puis de considérer comme ça plusieurs cas de figure dans des romans. Et donc, il y a des artistes de différents domaines qui sont à différents niveaux de notoriété. Et il y a dans Sentinelle, donc la reconnaissance suprême, qui est ce vidéaste qui a une exposition qui lui est consacrée. Mais même lui, à ce moment-là, on n'est jamais totalement satisfait de la façon dont on est perçu et peut-être de ce qu'on fait, puisque même lui, au moment qui devrait être de la reconnaissance suprême, il y a un malaise aussi, il y a un décalage par rapport à l'image qu'on a de lui. Il y a quelqu'un d'autre dans ce vernissage qui est un ami, un ancien ami à lui avec lequel il s'est brouillé, qui est dans une démarche plus... exigeante et qui lui reproche un peu d'avoir trahi cette exigence pour aller vers un succès plus facile. Donc il y a toutes ces questions qui sont abordées.
Avec aussi alors il ne faut pas tout vous dire, parce que si vous n'avez pas lu le livre, vous découvrirez cela, mais avec aussi la question de la reconnaissance métaphorique, là encore, de l'art lui-même, vidéo, avec une question qui vous hante de livre en livre sur toujours cette mémoire et cette empreinte. Ah ben la vidéo, c'est un art neuf qui n'a pas connu la guerre, donc la béance, donc la destruction, etc., etc. Mais c'est un art menacé par la vidéosurveillance. Enfin, et là-dessus, la reconnaissance permet de faire, non pas le tour, parce que rien n'est jamais clos, mais de comprendre presque l'ontologie de la vidéo. Je voudrais quand même vous interroger sur un moment particulier dont on ne se remet pas complètement, qui est, il n'y a qu'une sorte de vain et d'inabouti retour à la normale. Nous savons que nous sommes à la merci, page 180, qui fait presque penser à la fameuse phrase de Valéry après la Première Guerre mondiale. Maintenant, civilisation, nous savons que nous sommes mortels. Eh bien, c'est la question de la panne. Je voudrais juste lire un extrait. Enfin, je ne vois plus ces visages qui sont les clones les uns des autres. Enfin, je n'entends plus ces paroles mécaniques, stéréotypées. Dorénavant, le bateau a quitté son sillage et rien ne peut plus se dérouler comme prévu. Un incident s'est produit, une panne qui nous rend tous égaux, semblables dans notre condition. Bon, là encore, métaphore, vous n'êtes pas obligé de tout expliquer, mais cette panne est capitale.
Oui, oui. C'est un moment où tout s'arrête. C'est un instant qui dure longtemps. Donc là aussi, j'ai eu des interprétations, parce que c'est 21h12, j'ai fait ça, mais vraiment... Enfin, pas entièrement par hasard. Ça commence à 19h30. C'est scandé par des. C'est le gardien qui note l'heure à chaque fois qu'il prend la parole. Et donc, ça commence à 19h30. Ça se termine à 22h30. 21h12, c'était à peu près, pas tout à fait au milieu, mais un peu. Donc, voilà, je suis tombée sur cette heure. Et donc. Et même après, j'y pensais pas du tout, mais j'ai écrit ça avant l'histoire de la prédiction aztèque de la fin du monde. Et ça devient, enfin, plusieurs fois, on m'a dit 21-12, c'est le 21 décembre, donc c'était le jour 21 décembre 2012 de la fin du monde. Et je sais pas, alors peut-être j'ai été en communication une nuit inconsciente avec un aztèque, mais vraiment, c'était pas voulu, enfin prévu comme ça. C'était pas une subtile allusion à la fin du monde. Mais j'ai pensé en écrivant ce chapitre qui est, parce que le roman est divisé en chapitres, et ce chapitre est beaucoup plus long que les autres, justement parce que le temps s'arrête et que chacun, en fait, dans cette soirée, il y a beaucoup de de bribes de conversation et une certaine un côté superficiel et dans le noir, tout à coup, chacun est ramené à soi et à l'intérieur de soi et à des fantômes d'une certaine façon qui hantent et qui apparaissent à ce moment-là dans le noir, parce que c'est pas là en pleine lumière qu'ils vont apparaître. Et j'avais un modèle, enfin quelque chose en tête en écrivant ça, qui est différent et semblable à la fois, c'est l'ange exterminateur de le film de Buñuel, où il y a cette soirée et à un moment quelqu'un veut partir et puis il ne peut pas franchir le seuil. Et plusieurs personnes veulent quitter la soirée, et puis il y a cette impossibilité de passer dans la pièce d'à côté et de sortir. Et c'est une scène extrêmement, enfin, puis un film extrêmement marquant. Et voilà, j'avais un petit peu cette idée, enfin cette image plutôt, à l'esprit en écrivant cette scène. Et puis aussi, dans un premier état du roman, ce chapitre n'existait pas. Et j'ai eu le sentiment, en relisant, parce que ça s'est fait en plusieurs temps, qu'il manquait quelque chose et que justement, c'était trop, j'allais dire, premier degré. Enfin, plutôt, il y avait deux dimensions et il manquait la troisième dimension. Il y avait une profondeur, un champ de profondeur qui manquait. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée, en pensant à l'ange exterminateur, de ce moment d'arrêt du temps, et pas seulement d'arrêt du temps, mais de noir absolu.
Alors, noir absolu, on pourrait croire, au cours de notre discussion légèrement sépulcrale, que le noir absolu s'étend. Et je voudrais vous dire qu'il y a des trouées. On trouve des moments d'ironie grinçante, par exemple à propos d'un pigiste. Vous savez, ces journalistes qui n'appartiennent pas à une rédaction. Je n'appartiens pas à la rédaction, je suis en freelance, indépendant. Et indépendant dans vos goûts, vous êtes comme tout le monde, tributaire de la mode, de l'air du temps. Tac. Et puis, il y a parfois des moments d'humour en liberté, léger. Il faut être de son temps, c'est la moindre des politesses, quand on est un artiste. Voir le précéder légèrement, pas trop quand même. Donc, vous voyez, ça fait partie aussi de cette composition, de même qu'il y a des dialogues extrêmement brefs et fragmentés et d'autres beaucoup plus longs. Il y a des moments où le ciel est bas et lourd et des moments où vous vous permettez de respirer. Je voudrais terminer, il y aurait énormément de choses à dire en plus, mais je ne voudrais pas abuser de votre patience. En tout cas, merci d'être venu. Je voudrais terminer avec, pour moi c'est très important, c'est cet hommage que vous rendez visiblement à Elias Canetti. Masse et puissance, ce livre inclassable lui-même, qui n'est pas un roman, mais qui n'est pas un essai, qu'il a publié, je crois, très tard, en 1960, mais qu'il portait depuis très longtemps, depuis l'incendie de l'hôtel de ville de Vienne. Et donc, on est après la guerre, dans les Trente Glorieuses, et il revient sur une période de mutation dangereuse et scélérate, vers laquelle nous semblons en ce moment nous diriger. Et quel est le lait pour vous, LEGS, d'Elias Canetti?
Je ne sais pas si je peux répondre comme ça, mais en tout cas, cet essai Masse et puissance, je pense qu'il est relativement méconnu. Et c'est dommage parce qu'il y a effectivement toute une réflexion sur le phénomène de, enfin, l'hypnotisme des foules et tous les phénomènes de totalitarisme. Et il y a pas que ça, il y a des... Alors c'est toujours un peu dangereux d'essayer de caractériser enfin la psychologie des peuples, mais il y a des pages aussi qui sont assez, qui posent question en tout cas, qui font réfléchir sur les symboles des nations, par exemple pour la France, je crois que c'est la révolution, enfin l'événement fondateur. Pour l'Allemagne, il parle de l'image de la forêt. Et c'est vrai que dans l'imaginaire allemand, la forêt est très présente, très, très importante. Et en même temps, dans la forêt, il voit aussi, alors peut-être influencé par son expérience de vie, l'armée. Enfin, il y a Macbeth aussi qui fait de l'armée une forêt. Et voilà, l'Angleterre, je ne sais plus, je crois que c'est le navire. Il y a des choses comme ça qui sont assez inattendues et qu'on ne pourrait pas... qu'on ne pourrait pas déduire de la lecture de l'autobiographie, par exemple. Mais cela dit, moi, j'ai beaucoup aimé le premier tome, particulièrement de l'histoire, La langue sauvée. La langue sauvée, histoire d'une jeunesse, La langue sauvée. Et même ce roman qui s'appelle Auto da Fé, c'est vraiment très très bien. Et c'est pareil, c'est quelque chose qu'on ne lit pas tellement aujourd'hui. Canetti, c'est pas non plus un de mes écrivains de prédilection, mais c'est une œuvre qui n'est pas forcément connue là où elle pourrait l'être. Enfin, où elle, c'est toujours idiot de dire où elle mériterait de l'être, mais qui est plus divers que ce qu'on en a retenu. Et s'il y a masse et puissance qui est assez présent dans ce roman, c'est aussi parce qu'un des thèmes récurrents, c'est la foule. Et donc, ça me paraissait incontournable, comme on dit aujourd'hui, de faire allusion à cet essai, comme au conte d'Edgar Poe aussi, l'homme des foules.
Et c'est sa réception en France, puisque la réception... s'explique d'une curieuse façon. Pierre Nora prétend être inconsolable, je n'en sais rien, mais c'est paru en même temps, je crois, que Les mots et les choses de Foucault. Et Elias Canetti en a énormément voulu à Pierre Nora. Leur amitié naissante s'est brisée parce qu'il n'y en a eu que pour Foucault. Et c'est vrai qu'à part peut-être maintenant le professeur émérite au Collège de France, Jacques Bouvresse, ceux qui s'intéressent à Canetti sont très rares, sans parler de cette langue allemande dans laquelle il écrit. Mais là, on retrouve, vous qui aimez les langues, quelque chose de magnifique, puisque vous savez qu'il était né en Bulgarie, que sa première langue était le ladino, et qu'il parlait parfaitement français, et que son frère, Jacques Canetti, quand il est mort, eh bien... dans son agonie qui a duré quelques jours, il a remonté comme une espèce de saumon vers sa langue d'origine. Il a abandonné le français, puis il s'est mis à parler en anglais qu'il a abandonné, puis en allemand qu'il a abandonné, et il a terminé avec cette langue qui est en train de disparaître, qui est le ladino. Donc Elias Canetti, prix Nobel de littérature totalement ignoré ici, apparaît dans votre livre comme une des métaphores possibles. En tout cas, vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté de parler. On aurait pu parler encore pendant une heure de Sentinelle et du cycle auquel il se rattache et de votre œuvre dans laquelle ce livre s'inscrit, avec des livres que vous mettez un peu de côté, mais votre œuvre est un tout que vous n'allez sûrement pas renier. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci.